Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique les amis. Aujourd'hui, hein, comme tous les jours, je vais vous présenter un jeu, je vais vous dire comment on y joue et ce que j'en pense. Et puis le jeudi, on retrouve Morgane du Carnet des Geekeries pour Soirée Jeux. Eh bien, elle va nous dire les jeux qu'elle a joués. Et en général, hein, c'est pas des jeux très très récents, mais bon, c'est plutôt sympa, vous allez voir, il y a des belles surprises à venir. Eh bien, C'est Ludique, ça commence tout de suite aujourd'hui, direction la Hollande.
La pause déjeuner, Matt, pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, c'est Windmile Valley, un jeu de Dani Garcia illustré par Pedro Colecho et Katarzyna Witos. Ce jeu expert est édité par Pizzi Games pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Alors après l'Espagne avec Barcelona, direction les Pays-Bas, vous allez incarner des producteurs de tulipes. Il faudra construire des moulins et trouver des nouveaux bulbes de ces fleurs pour ensuite les planter. C'est plutôt original hein, comme thématique. Alors au niveau de la mise en place, on va pas rentrer dans le détail car il y a beaucoup de choses, mais en gros vous avez un grand plateau central avec le marché et les différents champs. Chaque joueur a un plateau ferme et un moulin avec deux roues d'action. C'est la mécanique centrale du jeu. La partie s'arrête dès que l'un des joueurs atteint la fin de la piste du calendrier. On avance sur le calendrier quand le cran de la grande roue s'aligne ou dépasse la flèche rouge du plateau moulin. Voilà, attention, 4 rotations entières de roues et c'est la fin de la partie. Mais alors comment on joue? Eh bien, Windmile Valley se joue en 4 manches. À votre tour, vous avez pas mal hein, de choses à faire. On commence par gérer l'eau. On ouvre ou on ferme la vanne. Bien sûr, hein, ce n'est pas gratuit, cela vous coûtera des florins, la monnaie du jeu. Ensuite, vous ajustez le niveau de l'eau, ce qui va permettre de tourner la roue de votre moulin. Vous faites tourner la roue de gauche d'un nombre de cages, eh bien ça fait tourner la roue de droite. Vous choisissez l'une des deux actions, ou parfois les deux, puis vous faites ce qui est indiqué sur le plateau. Ces roues, hein, vous allez les améliorer tout au long de la partie, c'est clairement hein, le moteur du jeu. Alors parmi les actions, vous pourrez améliorer votre ferme en recrutant des saisonniers qui vous offrent une nouvelle capacité. Vous pouvez utiliser à la place la carte en contrat, construire un moulin de votre réserve que vous placerez sur le plateau central après avoir payé des florins, et que l'emplacement aussi soit relié à d'autres moulins. Vous allez récupérer les récompenses des champs adjacents à votre moulin. Pour les autres joueurs, ceux qui ont des moulins sur le tracé qui mènent au marché eh bien, auront un point de victoire. Parmi les actions, donc aller au marché ou vous déplacer sur le marché ou encore planter des bulbes que vous aurez préalablement placés dans l'entrepôt en choisissant toujours l'emplacement le plus à gauche de la ligne. Ces actions eh bien, vont nous aider notamment à faire pousser des tulipes. Eh ben oui, c'est le but du jeu, hein. Le mieux c'est de les faire pousser en rangées de couleurs assorties hein, tout en veillant à ne pas répéter la même couleur dans chaque colonne. On aime la variété. En plus d'obtenir des récompenses, vous obtiendrez des points pour des rangées et des colonnes complètes. Vous obtiendrez également des points de victoire pour les tulipes de certaines couleurs si vous parvenez à placer les moulins à vent associés sur le plateau principal. Et oui, tout s'imbrique dans Windmile Valley. Dernière chose, on peut faire aussi du commerce extérieur en plaçant un bulbe d'une couleur différente à ceux déjà présents et on gagnera des récompenses. En fin de partie, eh bien on va compter notamment les points des contrats et les groupes de moulins vides qui rapportent des points par rapport aux bulbes de tulipes dans nos parcelles. Vous voyez, hein, y a pas mal de choses à faire. Alors ce que j'en pense de Windmile Valley, c'est un jeu avec pas mal d'interactions, il va relier un différent mécanisme de jeu entre eux. En plus de la sélection d'actions par la roue, il y a la zone de marché où l'on essaie de se positionner et essayer d'obtenir le plus de tulipes, les champs avec les moulins, il y a de nombreuses possibilités, vous pouvez gagner aussi beaucoup de récompenses. Un jeu très coloré qui nous donne envie hein, de nous évader pour découvrir cette route des fleurs. Voilà, ça s'appelle Windmile Valley et donc ça vient de sortir chez Pizzi Games. Allez, d'ici quelques instants, eh bien on va retrouver Morgane du Carnet des Geekeries. C'est Soirée Jeux qui arrive. C'est juste après Jérémy Frérot avec Adieu.
C'est la pause déjeuner. C'est ludique, les soirées jeux, c'est magique.
Bien sûr que les soirées jeux, c'est magique, n'est-ce pas, Morgane?
Exactement, salut.
Salut, ça va bien?
Oui, et toi?
Bah oui, très très bien. Alors aujourd'hui, on va parler, parce que tu fais pas mal de soirées jeux,
oui.
Mais tu fais pas que des jeux qui sont nouveaux, qui viennent de sortir. Hein.
Non, c'est ça, avec la ludothèque, du coup, on fait pas mal de jeux anciens aussi, enfin anciens.
Ancien.
C'était relatif, mais voilà, c'est des jeux qui sont un peu plus anciens. Donc du coup, avec la chronique, bah, c'est vrai qu'on aura l'occasion de parler des jeux qui sont sortis il y a peut-être plusieurs années déjà, et pas forcément que de nouveautés tout le temps.
Alors, tu as joué à quoi cette semaine dans tes soirées-jeux ?
Alors cette semaine, on a joué à Expédition Autour du Monde. J'y avais pas rejoué depuis un petit moment. Expédition, c'est la réédition du Grand Safari. C'est un jeu qui était sorti en 1985.
D'accord.
Un jeu du célèbre Wolfgang Kramer, ah bah, qui a été illustré par Ian Valeani et qui a donc été réédité chez Super Meeple l'année dernière. C'est pour ça que je disais, c'est pas que des jeux anciens
oui.
non plus.
Ouais.
Voilà, c'est un an, c'est pas non plus énorme.
Non, l'année dernière, ça va.
Voilà, dans ce jeu du coup on va créer trois expéditions communes qui vont partir d'un lieu pour nous amener à des destinations différentes. Donc chaque joueur aura plusieurs cartes en main et en fait on va devoir faire en sorte que les expéditions elles passent par nos destinations pour valider nos cartes. Donc à notre tour on va poser une flèche sur une des trois expéditions, t'as la rouge, la bleue et la jaune, pour la faire progresser tout autour de la planète. Et là où c'est subtil, c'est que les expéditions, comme je l'ai dit, elles sont communes.
Ben oui.
Donc chaque joueur aura son intérêt à l'amener vers ses destinations à lui, et bien souvent ça nous conviendra pas, hein.
Non, mais la flèche on la change de place, allez hop, tu pars dans l'autre sens maintenant.
Ah, voilà,
non,
c'est ça.
Mais non, je voulais aller par la pyramide d'Égypte là, sympa.
C'est vraiment, c'est tout le sel du jeu en fait. Donc voilà, l'autre subtilité, c'est que tu vas révéler des quatre destinations que tu as dans ta main en début de partie. Donc forcément, ça va pimenter un peu le truc parce que tu vas aiguiller les autres joueurs pour leur dire où tu veux aller.
Oui.
Ça va créer aussi des coalitions, alors provisoires parce qu'elles vont vite disparaître ces coalitions, pour emmener l'expédition vers une zone plutôt que vers une autre avec d'autres joueurs. Mais voilà, on sait aussi que les autres vont clairement nous empêcher d'aller dans notre zone pour valider notre objectif.
Ouais.
Certaines cases vont aussi nous permettre de poser des flèches supplémentaires, de rejouer ou de récupérer un ticket. Et c'est vrai que les tickets seront bien utiles pour poser une nouvelle flèche ou en retirer une d'une expédition pour la réorienter ailleurs et la faire venir plus vers chez nous. On a aussi des destinations communes qui sont visibles de tous.
Ah, c'est
et en
bazar.
Fait, une fois, fois validé à notre tour, bah, c'est vrai que ça rajoute un point supplémentaire. Mais ces destinations-là, alors selon comment tu joues, à combien tu joues, tu les vois pas forcément bien.
Oui.
Parce que tu essaies déjà de faire attention à tes destinations.
Exactement.
Et en plus, il faut que tu arrives à penser aux destinations qui sont au milieu. Donc, c'est pas forcément évident. Les boucles d'expédition. C'est vrai que quand tu arrives à fermer une expédition, bah, elle te permet de repartir où tu souhaites sur cette expédition. Donc, ça, c'est clairement une bonne chose quand justement tu as besoin de la réorienter vers tes destinations à toi. On est vraiment sur un jeu qui a une belle interaction. J'y ai joué à 6, donc forcément, c'est plus chaotique.
Ah ouais.
Ouais. Wow. C'est clairement plus chaotique quand une destination semble compliquée à atteindre, surtout qu'au début, tu sais, on a placé nos destinations de base.
Oui.
On les a tous mis dans le même coin, donc au début, on était contents, on partait tous au même endroit. Sauf que quand tu arrives sur la zone juste à côté et que tu sais qu'il y a 3 destinations possibles, tu dis « elle va jamais venir chez moi ». Donc.
Et puis, il y a aussi le fait que quand tu arrives à l'extrémité du plateau, tu repars de l'autre côté.
Ah oui, parce que la Terre, elle est ronde.
Mais oui,
donc,
forcément.
Donc du coup, on passe de l'autre côté. Ça aussi, ça peut nous arranger pour aller faire des destinations qu'on pensait très loin et qu'au final, on peut les raccourcir en faisant le tour du plateau. Tu as aussi la possibilité de comboter un peu parce que tu as des cases pour rejouer, des cases qui te donnent des tickets. Et c'est vrai que si tu enchaînes pas mal, du coup, tu peux enchaîner plusieurs flèches d'un coup pour arriver à tes destinations. On va aussi perdre des points s'il nous reste des cartes en main à la fin de la partie ou des jetons de notre couleur qu'on aura placés en début de partie dessus. C'est vraiment un jeu où le hasard sert de la partie, hein, encore plus à 6 joueurs, parce que vraiment les destinations elles partent n'importe où.
Non, mais ça marche bien.
Ça marche hyper bien. C'est un jeu familial qui te mélange stratégie, blocage. T'as de l'opportunisme, hein, clairement, parce que moi quand je vois une destination qui arrive vers chez moi, t'essayes de négocier quand même. Hein. Tu te dis
oui.
Non, mais si, viens vers chez moi, et puis bon, après je ferai ça. Tu le fais pas forcément, hein, forcément, c'est le type de jeu qui veut ça. Mais c'est un grand plaisir d'y rejouer à chaque fois, parce que ça fonctionne très bien et ça se joue jusqu'à 6.
Ouais.
Donc voilà, t'as une base d'aventurier du rail,
c'est
mais jouable jusqu'à 6, vraiment, c'est vraiment agréable. C'est un jeu que je prends toujours plaisir à ressortir. Quoi.
Si vous n'êtes pas trop joueur, justement, de vous jouer aux aventuriers du rail, eh bien, passez sur Expédition.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis en plus, pour les enfants, c'est cool, parce qu'il y a plein d'infos sur les lieux. Parce que chaque lieu est unique, du coup, chaque destination est unique, et du coup, tu as toutes les infos du monument.
Ouais.
Donc c'est plutôt bien fait.
Le titre du jeu, c'est Expédition
Autour du monde.
Autour du monde. Parce que si vous allez chez votre ludicaire et vous demandez Expédition, croyez-moi, vous n'allez pas faire le tour du monde.
C'est pas le jeu.
Vous risquez de vous perdre.
C'est ça, ça va être un peu plus expert, quoi.
C'est clair. Autre jeu que tu as fait, Morgane.
Deuxième jeu sorti cette semaine, c'est Orléans Invasion, qui est une extension coopérative au jeu de base Orléans. Je sais pas.
Alors, moi, j'ai joué à Orléans, j'adore Orléans. Par contre, Orléans Invasion, je ne connais pas du tout.
Alors ouais, du coup Orléans, on est sur du jeu expert, donc ça change complètement d'expédition là. Et en fait, on va tenter de dominer certaines spécialités dans la France médiévale. C'est un jeu de Rainer Stockhausen qui est illustré par Clemens Franz et qui est sorti chez Matago en 2014 pour le jeu de base.
C'est pas le premier bad building ?
Je crois que c'est un des premiers.
Ah, c'est un des premiers bad building.
Je crois que c'est vraiment peut-être avec les charlatans.
Ouais, il me semble. Non, je pense que Orléans est avant les charlatans. Hein.
Je doute,
on va vérifier ça. On va vérifier ça. On va demander à nos équipes qui sont très nombreuses, voilà. C'est-à-dire moi.
Tu vas t'en occuper et tu me donneras la réponse.
Exactement.
Mais du coup, voilà, donc on est sur une mécanique de back building, comme tu l'as dit, où on va piocher un certain nombre de jetons personnages à chaque tour et les placer sur notre plateau pour réaliser des actions et gagner des nouveaux personnages. On a plein de choses à faire entre, il y a la construction de guildes, on fait progresser la science, on construit des comptoirs, on fait plein de choses. Visuellement, on est sur un jeu à l'allemande, donc c'est pas hyper attirant. Mais honnêtement, enfin, depuis que je l'ai essayé, je compte plus le nombre de parties que j'ai faites de ce jeu. C'est vraiment devenu un indispensable de ma ludothèque. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est une pépite des jeux. Et là, récemment, du coup, cet été, j'ai découvert l'extension coopérative donc, qui s'appelle Orléans Invasion. Et cette extension, elle remet clairement toutes les cartes sur la table et elle améliore l'expérience de jeu, mais complètement. Tu retrouves un nouveau jeu. En toute honnêteté, j'en ai dû en faire une bonne dizaine de parties depuis cet été. On n'a toujours pas gagné une seule fois.
D'accord. Ah ouais.
Mais on y retourne à chaque fois. Donc, preuve que tu vois, c'est totalement addictif. Ouais. C'est vraiment, on va finir par gagner. Hein. J'y crois à force, mais voilà, on y retourne quand même. Et dans cette version coopérative, en fait, on va tenter de défendre la ville face à l'invasion qui est annoncée. Et pour ça, on va avoir des objectifs communs. Notamment, on va avoir plein de personnages et des marchandises à récupérer tous ensemble. Sauf que y aura certaines actions à faire pour aller placer ce qu'on a besoin sur le plateau commun. On va construire des guildes aussi tout au bord des terrains pour protéger notre ville. Et il y aura des chevaliers à recruter, il y aura plein de choses à faire, et c'est hyper compliqué. Enfin, honnêtement, de recruter tout le monde, et en plus d'aller les placer sur le plateau commun, parce que c'est une action différente, tu les places pas dès que tu les as.
Ouais.
Et en plus de ça, chaque joueur aura sa propre petite carte, son petit rôle, qui complique encore plus le jeu. Voilà, donc il te rajoute encore une mission personnelle à réaliser si tu veux remporter la partie. Et en plus, comme ça suffit pas de complexifier encore plus le jeu, on rajoute des événements à chaque manche qui sont pas hyper agréables, parce que t'as la peste, t'as des choses comme ça qui débarquent, et du coup c'est des malus. Et en fait, avec cette version, tu redécouvres complètement le jeu. La coopération est hyper bien pensée, et pour moi, je t'avoue que j'ai même plus envie de retourner sur le jeu de base normal. En découvrant
Moi je suis pas très coop. Moi je suis plutôt compatible.
Vraiment, t'as le côté, tu perds complètement le côté compétitif, ça c'est clair. Mais en fait, les missions en plus, genre t'en as un, c'est faut que tu fasses une mission à chaque événement, faut que t'aies quelque chose devant toi. Donc faut genre que t'aies, faut que t'aies deux ressources que tu puisses payer à la fin de la manche.
D'accord.
Faut que t'aies construit tant de guildes. Enfin, c'est vraiment hyper prenant. Et pour l'instant, on a eu beau essayer de faire 20 000 calculs pour essayer de gagner, on n'y arrive pas. Donc on se dit qu'on va finir par y arriver, mais c'est hyper compliqué, mais c'est hyper agréable.
Alors pour la petite info, Orléans est sorti en 2016 et Les Charlatans en 2018.
Voilà. Donc, moi, j'avais trouvé 2014 pour Orléans.
J'ai fait ça vite fait, donc peut-être que je me suis trompé.
Ouais, c'était la VO, mais c'est possible.
Je vais peut-être me faire attaquer par toute la communauté Ludis, mais c'est...
Non, quand même pas. Mais du coup, ça doit être un des premiers, backbuilding.
D'ailleurs, je sais pas si tu as eu la news, Matago arrête les jeux experts.
Oui, j'ai vu ça. Alors, j'attends un peu plus de précision, parce que de ce que je comprends, ils vont continuer la distribution.
Oui, la distribution, certainement.
Mais pas l'édition pure, mais c'est vrai que Orléans vient de chez eux, donc...
Ouais. À voir.
Puis là, t'as la cathédrale d'Orléans qui arrive, donc qui est la version familiale d'Orléans.
Ouais.
Et je crois qu'elle sera quand même chez eux, parce que du coup, c'est familial.
Oui, du coup, les jeux familiaux vont rester chez Matago,
C'est ça. Donc, on verra bien.
C'était
une bonne nouvelle pour eux. Mais,
c'était quand même les grands spécialistes du jeu expert avec d'autres éditeurs.
C'est ça, ils avaient quand même des gros jeux.
Il y avait souvent des problèmes aussi au niveau de traduction, peut-être que c'est ça. Ils étaient pas assez dans l'équipe, c'est possible aussi. Donc, ils ont peut-être voulu recentrer. Ouais.
À voir ce que ça va donner.
On en saura plus, bien sûr.
C'est ça.
celui que tu vas nous parler.
Ouais, ce sera Nekojima. Ah. On a évoqué le nom la semaine dernière pendant le récap de Vichy, parce que je vous ai parlé de Dungeon Exit, donc le prochain jeu de Unfriendly Games. Et donc là, c'est leur premier jeu dont on va parler, qui a donc reçu le prix éditorial OGBL à Vichy. Nekojima, c'est du coup créé par Karen Nguyen et David Carmona, qui sont donc aussi éditeurs, et c'est un jeu d'adresse et de dextérité.
C'est ça.
En soi, c'est pas du tout le genre de jeu où je suis la plus douée. Je me souviens de ma première partie que j'ai fait de Nekojima, où j'ai tout fait tomber au troisième coup.
Ah oui.
Voilà, ça m'a valu le surnom de Godzilla, mais voilà, c'est pas grave dans ces jeux. Mais je te rassure, je me suis bien améliorée depuis, je me suis entraînée. Et en fait, dans Nekojima, qui est donc l'île des chats au Japon, on a tout un réseau électrique à faire pour alimenter l'île. Et comme il y a de plus en plus de chats et que l'île, elle est pas bien grande, l'installation, elle va se complexifier. Et c'est là que nous, on va intervenir. Et en fait, à tour de rôle, on va devoir poser un denshu, donc ça représente les poteaux électriques, avec deux poteaux en bois et un câble qui les relie sur l'île. Mais ce denshu, il sera placé sur les couleurs que les dés auront décidé pour nous. et le câble sera de la couleur que vous aurez tiré dans le sac. À savoir que les poteaux, bah, ils vont avoir des tailles différentes, donc on a des plus grandes aussi pour les mettre aussi de travers, et les couleurs de câble aussi, et ça vous avantagera pas toujours d'avoir telle ou telle couleur de câble par rapport à là où vous devez les placer.
Et bien sûr, les câbles ne doivent pas se toucher. Hein.
Voilà, aucun câble ne doit se toucher, et c'est là que la dextérité rentre clairement en jeu, parce que bah, ces poteaux, on va pouvoir les positionner sur d'autres poteaux, les empiler, et en fait, votre structure, elle va être de plus en plus haute, et surtout de plus en plus fragile. On a plusieurs modes de jeu, on a le compétitif, et là, bah, le premier à tout faire tomber la structure, enfin, la structure, bah, il perd. On a le coopératif où l'objectif, bah, c'est d'aller le plus loin possible dans les niveaux. Et on a aussi un mode en équipe où les joueurs bah, devront placer les denchus à deux en prenant chacun un poteau du câble, enfin un poteau électrique, un côté du poteau. On a un bon côté interaction parce que c'est vrai qu'on forcera parfois les autres joueurs à rajouter un chat sur leur câble qui risque de tout faire tomber parce qu'ils sont pas légers, ou à choisir une couleur de dé pour eux. Bref, voilà, c'est vraiment tout fait pour rendre le jeu bah, addictif, de rassembler tout le monde autour de la table et passer un super bon moment ludique. Ouais. Là, on y a clairement joué, on a enchaîné deux parties en équipe avec des équipes différentes à chaque fois. Tout le monde s'est pris au jeu, il y a plusieurs variantes aussi pour corser le jeu. Enfin voilà, tu sors le jeu, t'expliques les règles en 3 minutes et tu joues. Et l'extension arrive tout bientôt.
Ouais, ça rajoute
en novembre. Voilà,
rajoute
on rajoute
une difficulté.
Le tori.
Ouais.
Mmh. Ouais, on rajoute le tori, du coup, le fameux portail traditionnel japonais qui va clairement corser bah, les placements de Tenchu. Et on a aussi un petit mannequin Neko, hein, le petit chat japonais, qui va être à suspendre, mais aussi qu'on va pouvoir décrocher. Donc ça, j'attends de voir, parce que déjà que je suis pas très douée dans la version de base, je me dis si en plus il faut s'amuser à enlever un chat, à le remettre, ça va être sympa, je
ça
pense.
Va devenir combien. Moi, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que tu vois, quand quelqu'un prend son bâton là, pour le poser, je fais « Attention, tu es en train de trembler, là !»
C'est ça, et puis quand tu pars en fou rire aussi, et que là, tu trembles de partout parce que tu n'arrives pas à le poser.
Ouais. C'est ça, tu trembles, tu le poses, mais pose-le ton bâton, pose-le.
C'est tellement ça, puis tu surveilles bien si ça touche pas. Ben non, là ça touche, ça le fait pas, ouais. Là tu peux pas, t'as pas le droit.
C'est clair. Ah là 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 là. Bah, merci beaucoup Morgane.
Avec plaisir.
Eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle soirée jeu. Tu vas encore nous faire découvrir d'autres jeux sortis hein, il y a quelques années.
C'est ça.
Eh ben, très bonne journée et bonne semaine.
Merci, toi aussi.
Salut.
Salut.